Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors, je propose de découvrir le Bélier sous des angles un petit peu différents. Donc, on verra le signe astrologique qui est un point de départ, bien sûr, pour donner de l'importance au Bélier dans notre imaginaire et donc dans la mythologie. Et ensuite, on verra ce Bélier dans le cadre de la culture gréco-latine. Et dans un troisième temps, on parlera du Bélier de sacrifice, le Bélier sacrificiel. Alors, en astrologie, l'entrée dans le signe du Bélier, c'est-à-dire le 21 mars, ça coïncide avec l'équinoxe de printemps, donc c'est déjà effectivement toute une symbolique qui se met en place avec le printemps. On peut voir les choses autrement. Il y a 4220 années, le Bélier succédait au Taureau comme constellation équinoxiale, ce qui allait lui donner une importance considérable dans la plupart des civilisations. Alors en effet, donc, vous trouverez à l'époque néolithique quantité de représentations du Bélier. Il a une place qui était vraiment fondamentale en raison de ce passage que je viens d'évoquer. Ça devient la constellation équinoxiale, il y a de ça un peu moins de 5000 ans. Alors il est vrai que les deux représentations, d'abord du Taureau et ensuite du Bélier, allaient s'imposer très largement dans l'iconographie néolithique, c'est-à-dire si on considère le bestiaire de la préhistoire, ce sont des animaux extrêmement importants. D'abord le Taureau, d'ailleurs, d'abord le Taureau, ensuite avec ce passage que j'ai évoqué, le Bélier donc finit par l'emporter. Chez les éleveurs nomades, le Bélier, c'est-à-dire, entendons-nous bien, le mâle non châtré de l'espèce mouton, conduit le troupeau ovin. Là aussi, c'est riche en symboles, dans la pensée symbolique, imaginez. Donc, il est donc le premier. Le Bélier est le premier. Il est celui qui précède, il symbolise la prééminence, il symbolise la principauté même, carrément. Et c'est aux Égyptiens que l'on attribue la création de l'astérisme. L'astérisme, c'est-à-dire quand on regarde la voûte céleste, parmi toutes les constellations, ce groupement d'étoiles fixes qui forme un Bélier, ça a été vu par les Égyptiens, dessiné, si vous voulez, par les Égyptiens, c'est ce qu'on appelle l'astérisme du Bélier dans ce cas. Alors plus précisément, les Égyptiens remarquaient que la constellation du Bélier atteignait son point culminant quand l'étoile Sirius, la fameuse étoile Sirius, qui a tant d'importance dans l'imaginaire des Égyptiens de l'Antiquité, donc que l'étoile Sirius, elle est dans la constellation du Grand Chien. Donc quand l'étoile Sirius apparaissait, effectivement, la constellation du Bélier, de son côté, atteignait son point culminant. Et ce moment précis, donc c'est un moment astrologique, c'est une date, si vous voulez. Le calendrier est toujours déduit des observations donc astronomiques. Et ce moment précis, cette date donc, fixait l'époque des crues du Nil pour le plus grand bien des terres. Donc imaginez ce qu'allait devenir le Bélier à la fois dans l'imaginaire, la culture ou l'iconographie des Égyptiens. Alors le Bélier qui veillait sur ce phénomène. En fait, dans l'imaginaire des Égyptiens, c'est ça. La constellation atteint son point culminant, l'étoile Sirius est dans sa constellation du Grand Chien, c'est le moment de la crue. Bon, alors c'est sûr, c'est le Bélier qui veille à cela, et ça assure aux Égyptiens de la présence d'Amon-Ré. Amon-Ré, c'est le dieu suprême, c'est le dieu de la fertilité, c'est le dieu qui a veillé, au même titre que le Bélier, à ce phénomène de la crue. Bon. Alors, ainsi dans l'astrologie, le signe est extrêmement important. L'image donc, est forte en symbole. Bon, on n'a jamais vu disparaître de l'iconographie de nos cultures, finalement, ce signe du Bélier. Donc là, ici, par exemple, un vitrail de la cathédrale de Chartres. Le signe du Bélier représente donc la vie naissante dans ce qu'elle a d'explosif. Il faut toujours lier ça au printemps, au printemps. C'est la constellation équinoxiale. Donc c'est une image très forte, celle de l'éclatement printanier des bourgeons. Mais on a dans cette représentation quelque chose de vif, de dynamique, presque on pourrait dire de violent en fait, hein, avec cette naissance du printemps. Donc le bélier incarne l'acte créatif, bon, c'est le printemps, sous l'impulsion des forces cosmiques, on associe ça à la constellation ou comme le faisaient les Égyptiens, donc on dit c'est une date qui va marquer donc l'arrivée de la crue. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose d'impétueux finalement dans le bélier, dans cette force qui arrive au printemps, dans cet acte créatif. Hein, donc il y a quelque chose d'explosif en fait. Hein, c'est le printemps qui éclate littéralement. Alors justement, c'est l'impétuosité du feu prométhéen, tout à la fois générateur et destructeur. C'est-à-dire que très vite, ce bélier va être assimilé au feu, tout simplement. Le feu prométhéen, tout ce qui génère, tout ce qui détruit, enfin le feu, quoi. Et par exemple, dans les civilisations indo-européennes, de l'Inde au monde celtique, en passant par quantité d'autres cultures indo-européennes, donc scandinaves, pourquoi pas, bon, entre autres, bon, l'animal, le bélier, est perçu comme symbole de vie. C'est le passage de l'ombre à la lumière, c'est le symbole de fécondité régénératrice, c'est-à-dire que tous les ans, à l'équinoxe de printemps, le bélier se manifeste et assure, donc garantit la revenue du printemps et plus et plus. Hein. Donc de fait, il est constamment associé au feu. Et dans les civilisations indo-européennes, c'est vraiment frappant ça, hein, tout à fait frappant. Donc par exemple, le dieu indien du feu s'appelle Agni. Vous avez le nom qui est ici, Agni. Donc comme par hasard, ce dieu a une monture qui n'est autre que le bélier, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer à l'instant. Le bélier est naturellement donc l'animal qui porte le feu. Personnifié. On peut être plus précis chez les Perses, qui sont des Indo-Européens, chez les Brahmanes, qui sont des Indo-Européens, Indo-Iraniens, si vous voulez, chez les Mazdéens sont pour la plupart des Iraniens, donc eux aussi des Indo-Européens. Et jusque dans les régions les plus septentrionales de la Scythie, donc le pays des Scythes, les Scythes, ce sont eux aussi des Indo-Européens. Les sites. Hein. Donc la Scythie, vous la situez en Asie centrale. Bon. Donc là, partout dans ce domaine indo-européen, mais surtout chez les Perses, les Brahmanes, les Mazdéens et les Scythes, le bélier représente Agni, le feu. Agni, c'est le principe igné de l'esprit pur. Je dis igné pour se souvenir, bien sûr, que igné, le mot commun qu'on utilise, nous, en français, bah, vient de Agni. Agni, le dieu du feu, dans le domaine indo-iranien, notamment. Alors oui, effectivement, Agni, c'est le gouverneur du feu. Agni, c'est le foyer de la chaleur qui anime chaque individu. Par conséquent, Agni, le feu, tel qu'on le définit dans ce domaine indo-européen, s'oppose à Soma. Soma, c'est le principe à queue par excellence. Agni et Soma sont à l'opposé l'un de l'autre. Agni est présent dans les livres sacrés des Indo-Iraniens. Vous le trouverez dans le Rig Veda, par exemple. Veda, ben, c'est les textes sacrés de l'Inde, des textes extrêmement anciens. Il y a 4 Védas, donc on peut les dater du 2e millénaire avant notre ère. Et dans le Rig Veda, c'est-à-dire l'un des 4 Védas, ben vous trouvez effectivement la présence d'Agni, hein, toujours associée au bélier. Côté iranien, c'est l'Avesta, le grand texte sacré des anciens iraniens, c'est l'Avesta, où là vous trouvez la même chose. Hein. Alors dans ces textes, il représente ou bien le feu commun, ou bien le feu universel, c'est-à-dire qu'il symbolise cette notion de force, d'ardeur, de pureté, d'action. Très naturellement, bah, ça se combine parfaitement avec le bélier. Ce sont déjà les qualités du bélier. Le feu et le bélier, dans la culture indo-européenne, ne font qu'un finalement. Très naturellement, le feu chevauche le bélier. Mais c'est intéressant de noter que cette symbolique que je viens de développer est partagée par d'autres cultures. Alors c'est ça qui est aussi fascinant. En Afrique noire, par exemple, l'animal, le bélier, est une divinité agraire associée au tonnerre. Et le tonnerre nous ramène, bien sûr, au feu, au principe du feu, à un principe actif, à un principe créatif, parce qu'avec le tonnerre, avec l'orage, arrive la pluie. La pluie fertilise le sol. Donc c'est la revenue des choses, hein, avec le bélier. Donc ça, c'est en Afrique, ça, par exemple, hein, avec ce superbe masque baoulé, qui est une tête de bélier. On peut donner d'autres exemples que je n'illustre pas forcément. L'un des immortels de la mythologie chinoise, hein, est lui aussi monté sur un bélier. Et là, il n'y a plus de référence du tout avec le domaine indo-européen. C'est la Chine, ce sont les Chinois. Mais enfin, ils ont effectivement cette image d'un immortel monté sur un bélier. Revenons à l'Égypte ancienne, puisque semble-t-il, tout est venu de là, hein. Donc si ce sont bien les Égyptiens qui ont dessiné, en quelque sorte, l'astérisme, ou créé l'astérisme du bélier, la constellation, donc en lui donnant cette importance que j'ai dite tout à l'heure. Alors oui, donc dans l'Égypte ancienne, bah, c'est Amon, le dieu de la fécondité, qui porte une tête de bélier, qui va donc correspondre le mieux donc au principe que j'ai évoqué du bélier, le principe actif, les deux donc entités, le Amon et le bélier ne font qu'un. Donc là ici c'est tout à fait frappant. Lorsque donc le dieu Amon donc a une tête de bélier, il peut aussi être accompagné, comme on le voit ici, du disque solaire. Voilà, et donc on joue comme ça sur des motifs qui sont le globe, le disque solaire, la tête de bélier, enfin en un mot, il est Amon Ré, le soleil. Donc là ici c'est vraiment l'image d'Amon Ré, le soleil. Le soleil est un principe actif qui nous ramène aussi au feu. Bon, et ça effectivement en Égypte c'est extrêmement important, très diffusé. Le souverain par exemple, hein, c'est-à-dire Pharaon. Et le représentant sur terre d'Amon, et d'Amon Ré en particulier, par conséquent, c'est au souverain de garantir à ses sujets la fertilité. Et le souverain s'implique dans ces rites qui étaient extrêmement complexes, très protocolaires et très longs, qui se déroulaient à Karnak, où là, effectivement, vous avez cette allée de béliers, mais qui ne fait que renvoyer à Amon, et à travers Amon, à son gouvernant sur terre, à son représentant ici-bas, c'est-à-dire le souverain, le pharaon. En tant que symbole, le bélier, entendons-nous bien, on parle du mâle entier et cornu. Hein, c'est ça le bélier. Hein. Donc ce bélier rejoint donc le taureau et le bouc. Il incarne la fécondité. Un bouc, taureau, bélier, ce sont des principes qui sont liés à la sexualité, à la virilité, à la fertilité, à la fécondité. Hein, donc c'est bien ce que l'on retrouve ici en Égypte, mais à peu près partout en fait, hein, dans les civilisations, le bélier a cette force-là, hein, donc active, liée à la fécondité, à la fertilité et à la sexualité, et à la virilité aussi. Dans l'île éléphantine, le bélier était consacré au dieu Khnoum. Donc il n'y a pas que Amon, il y a Khnoum aussi qui est représenté avec une tête de bélier. Je précise que Khnoum est un dieu potier, il est le responsable de la création. Donc ce qui nous ramène toujours à cette idée effectivement que le bélier est fécond, le bélier régénère, c'est un principe actif, un principe donc qui est lié à la création. On l'a dit dès le départ. Donc, très naturellement, Khnoum a une tête de bélier. En fait, il se rapporte, ce dieu, à Knef. Mais Knef, c'est une très, très vieille divinité à l'origine de la vie et qui était déjà représentée avec une tête de bélier. Mais ça, c'est vraiment à l'origine de la civilisation égyptienne, il y a au moins 5000 ans. Enfin, c'est quand même à noter. Donc, Khnoum, c'est en fait une forme dérivée de Knef, une très très vieille divinité à l'origine de la vie, avec déjà cette image du bélier. Changeons de civilisation Et on bascule dans le domaine sémite, le domaine des Acadiens, c'est-à-dire en se souvenant qu'en Mésopotamie, les grandes cultures sumériennes et acadiennes ont donné naissance à un foyer de civilisation remarquable où on invente l'écriture, etc. Enfin, bon. Donc avec l'Égypte, ce sont des très très grands foyers de civilisation. Alors là, c'est le monde sémite. Là. Bon. Alors dans le monde sémite, il garantit le passage de l'ombre à la lumière, de la vie à la mort, et donc par conséquent à une survie dans l'au-delà. Hein, tout est cyclique, bien sûr, c'est l'idée de la revenue et de la régénérescence. C'est donc le bélier qui va garantir tout ça, ce passage de l'un à l'autre. Alors, ce qui se voit, notamment à travers ces créations, là vous avez des béliers votifs qui sont absolument magnifiques et surtout très très anciens, on est sidéré par l'ancienneté effectivement de la... des objets que je vous présente, donc c'est-à-dire à peu près 4600 ans, ben, même pas à peu près, enfin 4600 ans, très très impressionnant. Alors ça correspond à une découverte fameuse, c'est la nécropole d'Ur en Mésopotamie. Cette nécropole a révélé une tombe appelée, comme c'est indiqué sur la projection, enfin je crois que je l'ai mis, Grand Puits de la Mort, le Grand Puits de la Mort, PG 1237. Le PG 1237, c'est sur le site archéologique d'Ur, le Grand Puits de la Mort. C'est l'archéologue anglais qui s'appelle Volley qui avait décidé d'appeler cette nécropole comme ça, enfin cet endroit de la nécropole comme ça, le Grand Puits de la Mort. Il faut comprendre pourquoi. En effet, ce Grand Puits de la Mort contenait 73 squelettes, 5 hommes et 68 femmes constituant les membres de la suite qui accompagnaient le défunt dans sa dernière demeure. Et on peut imaginer effectivement que ces gens, donc ces 5 hommes et 68 femmes, ont accompagné vivant dans la tombe le défunt, c'est-à-dire le roi. Hein, donc oui, parce qu'on a effectivement cette idée d'une survie dans l'au-delà. Donc c'est pas une mort. Enfin, on ne voit pas les choses comme une mort qui serait une fin en soi, pas du tout. Donc très naturellement, donc les serviteurs, la suite du roi accompagne dans la mort le roi. Et dans l'au-delà, cette suite continuera à servir le roi. Alors le cas n'est pas unique, hein, donc c'est effectivement très rencontré. 4 autres tombes, au moins de la nécropole d'Ur, contenaient comme ça plusieurs dizaines de morts d'accompagnement. Ça s'appelle comme ça, des morts d'accompagnement, mais enfin qui ont été quand même enterrés vivants. Donc alors oui, ce Grand Puits de la Mort est vraiment exceptionnel avec ses 73 squelettes. Et insistons encore, il ne s'agit pas de sacrifices humains, c'est pas une mise à mort d'individus pour honorer une instance supérieure, c'est bien le personnel qui est destiné à suivre le défunt dans l'au-delà comme ses autres biens. Donc il part aussi avec des biens, des objets, donc des choses de valeur, comme par exemple ces béliers. Ces béliers font partie de l'accompagnement du défunt dans l'au-delà. Alors parmi ce riche matériel, justement déposé dans la nécropole en question, enfin le Grand Puits de la Mort de la nécropole d'Ur, une paire de béliers. La paire de béliers, vous avez sous les yeux. Des béliers dressés, s'appuyant sur un arbuste, c'est un schéma iconographique très riche, bien sûr. On les a retrouvés très endommagés au moment de la découverte. Ils ont été restaurés, mis en place ou remis en place dans cette position, c'est-à-dire dressés sur leurs pattes de derrière. Et le plus frappant dans ces œuvres, c'est la richesse des matériaux utilisés. Alors ça, c'est important parce qu'il faut mettre ça en rapport avec ce que l'on a dit. Donc c'est une tombe royale avec les serviteurs, donc le personnel d'accompagnement à l'intérieur de la tombe, des objets qui sont tout à fait précieux. Et là, c'est peu de le dire. Donc on va l'évoquer. La polychromie d'ailleurs, hein, que l'on voit ici sur les objets, évoque déjà ces matériaux qui ont été utilisés. Hein. Alors comme beaucoup d'autres objets de la nécropole, l'or, l'argent, la nacre, le lapis-lazuli dominent. Ce sont les matériaux qui donnent la couleur que l'on a ici sous les yeux. Et ça témoigne d'un luxe incroyable, d'une richesse exceptionnelle, ce qui montre ce qu'étaient ces civilisations il y a près de 5000 ans finalement, en Mésopotamie. Or ces matériaux font défaut en Mésopotamie. Hein, c'est les matériaux que j'ai évoqués, l'or, l'argent, la nacre, le lapis-lazuli. Lapis-lazuli, on va le chercher plutôt du côté de l'Afghanistan, par exemple. Hein. Et ça suppose donc, dès cette époque, l'organisation d'un commerce à très longue distance destiné à la fabrication de biens de prestige pour les souverains et les élites de leur cour. Alors, l'or recouvre le museau et les quatre pattes de l'animal. Les cornes, la barbe, la frange frontale sont faites de lapis-lazuli, un peu comme la toison, en tout cas au niveau des épaules et du poitrail, c'est du lapis-lazuli. Chacune des franges est une pièce unique, collée au corps de l'animal en bois, c'est une âme de bois, et c'est collé au moyen de bitume. Donc les petites pièces, effectivement, de lapis-lazuli sont collées au moyen de bitume. Sur le dos et les flancs, la toison est formée de coquillages. Donc ce que l'on voit ici, effectivement, sont des coquilles et de la nacre sur les flancs. À partir d'un socle parallélépipédique, on le voit effectivement en bas de la photo, s'élève la tige ou le tronc de l'arbuste, d'où partent symétriquement deux branches avec des feuilles lancéolées, des rosettes aussi. Tout ça, c'est du bois, mais recouvert de feuilles d'or. Et c'est extrêmement symbolique. L'arbre, les feuilles, enfin, ce côté végétal est le symbole d'Inanna. Inanna, Ishtar, si vous voulez, la grande déesse mésopotamienne, Ishtar. Hein, ça dépend si vous utilisez le sumérien ou l'akkadien. Enfin, donc Inanna, déesse de l'amour et de la fécondité, donc ce qui fait que le bélier est bien associé à cette image du retour de la végétation, du retour du défunt. Le défunt renaîtra. Donc c'est une évocation de la régénérescence future et espérée, bien sûr, du défunt dans un au-delà. Alors ça, ce schéma, oui, il est extrêmement riche, hein, vous le trouvez partout, c'est-à-dire une combinaison de béliers et un arbuste contre lequel ils sont dressés. Voilà, ça c'est un motif très fréquent de l'iconographie sumérienne d'abord, akkadienne ensuite, et puis bien sûr tous les sémites par la suite, les assyriens par exemple, et beaucoup d'autres populations, les babyloniens, donc ont utilisé ce schéma. Donc le schéma se rapporte au mythe des animaux gardiens de l'arbre de vie. Il y a un très très vieux mythe, hein, qui est à la fois sumérien et akkadien, qui nous dit il y a au centre du monde donc un arbre qui est l'arbre de vie, arbre cosmique, pilier cosmique aussi, qui est gardé par des animaux gardiens. Le mythe précise que ce sont des animaux fantastiques, mais avec le temps, on peut effectivement trouver le bélier, parce que le bélier, comme vous l'avez compris dans la première partie de cette présentation, est très riche en symboles, surtout lié donc à la création, à la régénération, c'est un principe actif. Hein. Donc c'est l'animal gardien de l'arbre de vie à force, qui symbolise la fertilité du monde végétal, la fécondité aussi, et la fécondité du monde des animaux. Bon. Donc cette pièce appartenait donc au décor d'une lyre, c'est très très probable, et la lyre en même temps est un objet qui est rituel, donc on peut imaginer qu'au cours des rituels on avait cette présentation constante du bélier, de ce schéma iconographique, la lyre et la musique accompagnés des rituels extrêmement précis qui devaient être liés là aussi à la régénérescence des choses. Donc enfin, sur cette iconographie, remarquez comment on représente d'une façon très simple et très efficace la montagne. La montagne, c'est-à-dire une série de petites formes d'ove, si vous voulez, superposées, ça suffit pour suggérer une montagne. Donc l'arbre cosmique, l'arbre fleuri, l'arbre feuillu, parce qu'on voit aussi des feuilles, donc symbole de la luxuriance, finalement, de la végétation, de sa richesse, de sa fécondité, donc est plantée en haut d'une montagne, flanquée de deux béliers, gardiens à la fois de l'arbre et puis donc entité donc comme les dieux, en haut de cette montagne. Donc ce schéma est très très banal, vous le trouverez alors partout. Il n'a jamais disparu d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que par la suite, mais ça je ne vais pas le montrer, les chrétiens le récupèrent, hein, dans l'art paléo-chrétien aussitôt vous trouvez cette image, l'arbre étant donc l'arbre de vie du paradis pour les chrétiens. arbre sacré. Donc c'est vraiment constant, constant. Là, on s'est un peu déplacé, c'est l'Anatolie, la Turquie actuelle, où on voit cette représentation qui prouve que ça s'est répandu partout dans le monde antique. Alors, il y a aussi cette représentation qui m'a paru intéressante, qui peut-être envoie plus à des chèvres sauvages, mais enfin, on peut quand même y voir et les rapprocher, ces chèvres, quoi qu'il en soit, au bélier. Qu'importe d'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est le chiffre 4, ici. C'est le chiffre 4. Que ce soit des chèvres ou des béliers, c'est le chiffre 4 qui est intéressant. Donc là, nous sommes à Larsa, donc nous sommes revenus en Mésopotamie. Bon, enfin, vous avez la référence, je vous laisse la noter. Et ce qui est intéressant, oui, c'est le chiffre 4, c'est-à-dire ici, ce sont 4 chèvres ou 4 béliers dos à dos, mais parfaitement bien orientés, renvoyant aux 4 directions cardinales, évidemment. Et ce chiffre 4, ici, renvoie à la totalité, à la totalité. C'est la notion et le concept de totalité, un tout, si vous voulez, une représentation ici de l'univers, si on veut faire simple, de l'univers. Mais ça dépasse même cela, hein. C'est donc une représentation du tout ou de la totalité. Le bénéfice de l'offrande, puisqu'on parle du support d'une coupe à offrande, le bénéfice de l'offrande s'étend aux 4 directions cardinales. Là aussi, le rituel est important. Tout à l'heure, on évoquait la lyre qui était décorée d'un motif assez comparable. Donc, ça se rapporte à un rituel, qu'il soit funéraire ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, ici, le message est extrêmement clair. Si cette représentation évoque la totalité, alors le rituel va s'étendre, le bénéfice du rituel va s'étendre aux 4 directions cardinales. Quoi qu'il en soit, on rebondit sur ce chiffre 4. Et on revient à l'Égypte, parce que bien sûr, tout ça, c'est, ça se croise et s'entrecroise dans les grandes civilisations antiques du bassin méditerranéen, où les voies de communication sont extrêmement riches et étendues. Tous ces symboles, tous ces motifs donc, se retrouvent et sont traités de différentes façons, mais avec toujours un fond commun quand même, hein. Alors oui, on a parlé tout à l'heure donc d'Amon-Ré. On l'a vu effectivement avec une tête de bélier et donc même surmontée donc du globe ou de l'orbe solaire, disons. On a vu Khnoum, ici c'est le bélier d'Osiris, c'est Osiris maintenant. Alors facile à distinguer par rapport à Amon. Amon-Ré, bon, ben, il a le soleil sur la tête, donc c'est facile à identifier. Khnoum, bon, tête de bélier, c'est un dieu potier, donc on l'a vu aussi, il est facile à distinguer. Et Osiris, quand on le dote de tête de bélier, ben, c'est pas compliqué, il a toujours 4 têtes de bélier. 4 têtes, 4 cornes de bélier, comme autant de points cardinaux. Donc ce qui renvoie bien aussi à la notion de totalité, assimilé au dieu égyptien qui accueille dans son royaume souterrain les défunts, le bélier finit par s'identifier à l'âme. Et là, il y a donc une proximité tout à fait frappante entre deux civilisations qui, au départ, n'ont rien à voir l'une avec l'autre, la grande civilisation, pour simplifier, disons, sémite de Mésopotamie, et la civilisation égyptienne. Et on en revient même. Osiris, je ne vous l'apprends pas, c'est le grand dieu donc, du monde souterrain pour les Égyptiens. C'est celui qui est le roi du monde souterrain, qui accueille effectivement les défunts. Bon, ben, comme on l'a vu dans la nécropole royale d'Ur. Et à force, oui, le bélier finira par s'identifier à l'âme. Et enfin, pour donc être tout à fait complet sur l'utilisation que les Égyptiens ont pu faire du bélier, ou plus précisément des cornes de bélier, voici Bès, ou Aroérisme, enfin c'est Bès en fait, qui est représenté ici. Alors ça c'est une image qui est tout à fait frappante, une très très belle image, assez impressionnante d'ailleurs, d'une entité que l'on peut appeler effectivement Aroéris, que vous pouvez appeler plus simplement Bès, B-E, accent grave, S. Donc, à 4 bras, il a 2 paires d'ailes, il a 2 paires de cornes de bélier superposées, un globe par-dessus, et les 4 cornes de bélier suffisent pour faire de cette entité un symbole de totalité. C'est encore la totalité. D'ailleurs, on va être plus précis sur Aroeris. Aroeris, si on devait le traduire, ça donnerait à peu près ça, Horus le Grand. Donc ainsi, après Amon, après Khnoum, après Osiris, c'est maintenant Horus à qui on donne des cornes de bélier. Donc Horus le Grand, ou on pourrait le traduire par Horus le Tout-Puissant. Donc encore cette notion de totalité. Donc, d'où le chiffre 4. Proche de Bès, je vous le disais. Donc, c'est-à-dire proche de Bès dans le sens que c'est une divinité composite. Et c'est la particularité de Bès dans le panthéon égyptien. Divinité composite, conséquence d'un syncrétisme. C'est un peu comme Pan d'ailleurs. Pan, bon, mais Pan c'est le bouc. Dans la mythologie grecque, c'est le bouc. Donc, et le bouc, je crois qu'on a réservé une conférence sur le bouc, justement plus tard dans ce programme. Mais enfin, c'est un peu ça. Pan, c'est aussi un dieu du tout. Pan, c'est le tout, c'est la totalité. Et Pan, c'est aussi une divinité composite. C'est une divinité qui est une sorte de syncrétisme. Bon, enfin, qu'importe. Donc, on revient à ce Aroeris, Horus le Grand. Donc, la couronne est aussi constituée de petits animaux. S'approcher pour essayer de le voir, je ne sais pas si on le verra bien. Deux paires de cornes, je le disais, portant des cobras. Très bien, les cobras, les têtes de cobras, un disque solaire par-dessus, des serpents recouvrent ses genoux et ses pieds, vous voyez, au niveau des genoux, des pieds, il y a des serpents qui apparaissent, c'est peu de le dire qu'il est syncrétique, c'est une divinité vraiment composite. Et son corps, par ailleurs, est couvert d'Udja, d'Udja gravé, l'Udja c'est l'œil. C'est l'œil d'Horus. Donc c'est une figure effectivement composite qui renvoie à la totalité. C'est une figure que l'on peut aussi qualifier d'apotropaïque, c'est-à-dire quelque chose d'assez monstrueux, mais pour chasser les monstres, pour chasser le mal, pour repousser, apotropaïque dans le sens de repousser le mal. Et donc j'insiste, figure qui symbolise la totalité, comme en témoigne ce texte que je vous lis maintenant, mais qui va s'afficher d'ailleurs sur la projection. Voilà, logiquement, j'espère que ça va s'afficher sur la projection, ça devrait quand même, voilà. Donc le texte dit « Celui qui cache son nom devant les dieux, l'ogre de millions d'ônes, celui qui est fort, qui a fixé le firmament à sa tête, de son nez souffle l'air qui anime tous les nez, lui qui se lève en soleil pour illuminer la terre, de son corps se répand le Nil pour nourrir chaque bouche, cette figure est appelée Bès Panthéos. » Et c'est vraiment un syncrétisme. Et c'était bien sûr très très apprécié du temps des Perses, 620. Avant notre ère, et du temps des Grecs par la suite, d'où le terme de Panthéos. Panthéos, c'est grec, Bès Panthéos. C'est le Bès qui représente la totalité, Panthéos. Bon, la totalité des dieux, et donc de toutes les fonctions qui se rapportent à ces dieux. Alors voilà un peu comment on peut présenter ce bélier dans un premier temps, c'est-à-dire que tout est parti de ce passage. Tout d'un coup, effectivement, il y a 4420 ans, enfin j'ai plus la date en tête, donc le bélier est devenu la constellation équinoxiale. Et là, ça lui a donné effectivement une puissance, une force tout à fait incroyable, plus important que le taureau encore, qui était l'ancienne constellation équinoxiale. Tous ces principes, tous ces symboles que j'ai évoqués, abordons maintenant le bélier dans la culture gréco-latine. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs avec ce que l'on a dit. Effectivement, là, ici, c'est frappant. On a un Zeus Amon. Donc, c'est une représentation syncrétique. Lorsque les Grecs s'installent en Égypte, quand ils conquièrent l'Égypte, avec Alexandre le Grand, donc il récupère bien sûr toute cette culture, toute cette mythologie, toute cette religion égyptienne, n'abandonne pas la leur, produise un syncrétisme, et très naturellement, Amon est assimilé à Zeus, ou Zeus à Amon, et voici une représentation tout à fait extraordinaire d'un Zeus Amon sur un trône flanqué de béliers. Ce sont bien des béliers qu'il faut voir de part et d'autre. Ça s'explique, puisque Amon, c'est le bélier. Amon a une tête de bélier. Donc c'est un art hellénistique, c'est caractéristique de la conquête de l'Égypte par les Grecs ou Macédoniens avec ou après Alexandre le Grand. Alors le bélier, c'est donc Amon, on l'a dit, la grande divinité égyptienne adorée à Thèbes, on l'a vu aussi, l'allée des béliers. Bon. Les Grecs l'ont donc assimilé à Zeus et l'ont parfois représenté sous la forme d'un corps humain à tête de bélier. Vous pouvez trouver ça, Zeus à tête de bélier. Intéressant, parce que là, c'est vraiment donc emprunté directement aux Égyptiens. Vous trouvez aussi la formule, elle est donnée par Macrobe, d'un Zeus aux cornes triplement enroulées. C'est Macrobe qui dit ça. Et quand il parle de cornes, c'est bien sûr les cornes donc, de bélier, un peu à la manière des cornes de Bès qu'on a vu à l'instant, le Bès Panthéos. Hein. Donc on peut le trouver, ça, on peut le trouver. Alors je dis pas, ça sera pas forcément, donc, comme le dit Macrobe, ces cornes triplement enroulées, mais enfin, voici l'effigie de Zeus, c'est bien Zeus, Zeus Amon, et il n'a pas une tête de bélier, mais enfin, sur son crâne pousse des cornes, et ça ne trompe pas, ce sont bien des cornes de bélier. Alors Hermès, on peut dire aussi Hermès, un Hermès, c'est un mot commun, un Hermès, c'est un pilier, hein, souvent c'est un pilier fiché en terre, c'est un pilier ityphalique, c'est-à-dire effectivement symbole là aussi de fécondité, le phallus qui pénètre dans la terre. C'est représenté ça sous l'Antiquité sous la forme d'un pilier qu'on appelle ityphalique et qu'on peut appeler Hermès, un Hermès, hein, c'est un nom commun dans ce cas. Donc là c'est l'Hermès ou l'Hermès de Zeus Amon en marbre avec ses cornes de bélier tout à fait remarquables. C'est un objet qui est vraiment exceptionnel. Alors, expliquons, oui, l'importance de ce Zeus bélier en Égypte, confondu avec Amon du temps des Grecs, du temps à l'époque hellénistique. Parce que Héraclès, le fils de Zeus, hein, qui d'ailleurs en Égypte porte le nom de Gomi, G-O-M-I, ou Somi, vous trouvez aussi S-O-M-I, enfin, qu'importe, parce que Héraclès insiste pour le voir et que lui ne tient pas à se montrer. Lui, c'est Zeus. Zeus, son père, ne veut pas voir Héraclès, son fils. Bon, que fait Zeus? Il décapite un bélier, prend sa tête et la tient devant lui en paraissant devant son fils. Comme ça, il ne se montre pas. Ce qu'il montre, effectivement, c'est la tête de bélier. Il se cache derrière la tête de bélier. Ovide raconte que lors de l'attaque des géants, la gigantomachie, fait intervenir tous les dieux se battent contre les géants, sans exception. Le plus minable de tous les dieux, c'est Mars, enfin Arès, hein, Arès, dieu de la guerre, hein, qui lui, il a peur effectivement des géants, il est incapable de se battre correctement contre les géants. Et le plus grand héros de la gigantomachie, c'est évidemment Héraclès. Sans Héraclès, les dieux de l'Olympe, Zeus le premier, n'auraient jamais pu vaincre les géants. Enfin bon, Ovide raconte ceci, que lors de l'attaque des géants, Zeus se cache en Égypte, il a peur des géants. Zeus, hein, et il a pris là-bas l'apparence d'un bélier. Donc c'est assez curieux, cette substitution. Il se cache, Zeus se cache derrière le bélier. Les Romains, de leur côté, sacrifiaient un bélier à Jupiter, animal de sacrifice, mais ici à Jupiter. Bon, mais Jupiter, c'est Zeus, hein, c'est lors d'une fête particulière, c'est la fête religieuse des Nundines. Passons. En Inde, alors que Dionysos, le grand dieu donc grec, Bacchos pour les Grecs, Bacchus pour les Latins, donc alors que ce dieu recherche de l'eau, parce qu'en effet le mythe nous dit il est parti en Inde, bon, un bélier surgit de nulle part dans le désert. Le dieu le suit et trouve une source, justement. Il demande alors à Zeus, qui est à ce propos son père, hein, donc Zeus c'est le père de Dionysos, de placer cet animal parmi les constellations, et lui-même, à l'endroit de la fontaine, élève le temple de Zeus Amon. Donc, en Inde, là où le bélier a conduit Dionysos à la source, se dressait un temple de Zeus Amon, nous dit le mythe. parce que bon, on l'a jamais retrouvée, mais qu'importe, puisque c'est la même culture en fait, hein, grecque et indienne, c'est exactement la même culture, hein, et puis donc l'animal ensuite devient une constellation, la constellation du Bélier. Voilà comment effectivement les Grecs et les Romains racontaient l'histoire de la constellation. Enfin, on voit effectivement, c'est tout à fait impressionnant, comment Grecs et Romains, et Grecs d'abord, hein, bien avant les Romains, ont récupéré ce motif extrêmement important du Bélier. Par le biais de l'Égypte d'ailleurs, hein, c'est sans doute parce que les Égyptiens donnaient une telle importance au Bélier que les Grecs l'ont récupéré à leur compte. Bon, alors là-dessus, une histoire qui est effectivement très, très fameuse, très très célèbre, et qui met en scène Phrixos. Vous avez son nom ici, Phrixos. Hein, j'ai mis en gras là, les noms, les trois noms donc importants du mythe que je vous rapporte maintenant. Alors Phrixos est le fils d'Athamas et de Néphélé. Hein, laissons ces noms de côté, ce n'est pas les plus importants. Donc enfin, il fallait quand même le signaler, il est aussi le frère d'Élée. Donc Phrixos et Élée sont frères et sœurs. Donc enfant de Athamas et de Néphélé. Athamas, le père donc, répudie sa femme pour épouser Ino. Ino, c'est la fille de Cadmos. Bon, Ino, qui est la nouvelle épouse de Athamas, qui a répudié donc sa femme, qui est la mère donc de ses deux enfants, Phrixos et Élée, Ino projette maintenant d'éliminer les enfants du premier mariage, autrement dit Phrixos et Élée. Et elle persuade les femmes d'assécher les graines destinées au semail. Les femmes prennent les graines en question en cachette de leur mari et les font griller, si bien que le moment venu, la terre naturellement ne donne pas la récolte escomptée. Donc Ino a un projet. Elle veut se débarrasser des enfants du premier mariage de son nouvel époux Athamas. Hein. Elle a ce projet. Alors Athamas se rend compte que son royaume ne donne pas la récolte escomptée. L'agriculture donc ne vient pas. Alors Athamas, qui redoute une disette, et effectivement donc ça ne peut que provoquer une disette, envoie des ambassadeurs à Delphes pour avoir l'oracle et la vie donc d'Apollon. Bon, Ino, qui a un plan, convainc les messagers qui partent à Delphes de lui rapporter une fausse réponse au roi Athamas. Hein. La réponse sera la suivante, que la terre redeviendra fertile si Phrixos est sacrifié à Zeus. Donc Ino parvient effectivement à rapporter cette fausse réponse à Athamas. Que fait Athamas? Il croit en l'oracle de Delphes, en l'oracle apollinien. Donc il écoute la réponse et poussé par les habitants, il mène son fils sur l'autel du dieu. Mais Néphélé, qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est la maman en fait, l'enlève et sa fille avec et leur fournit un bélier à la toison d'or. Ce bélier s'appelle Chrysomalos, c'est le nom du bélier. Fantastique, merveilleux, c'est un bélier à la toison d'or. En fait, pour être plus précis, ce bélier est fils de Poséidon et de Théophanée. Mieux, c'est un don d'Hermès. Du moins, Hermès lui a doré sa laine. C'est un bélier qui a une toison d'or, mais c'est Hermès qui lui a doré sa laine. Sinon, c'est effectivement le fils de Poséidon et de Théophanée. Alors, les deux enfants, frères et sœurs, Phrixos et Élée. Les deux enfants montent sur le bélier qui les emmène à travers l'espace, au-dessus des terres et des mers. Hein, c'est un bélier fantastique. Bon, entre Cigé et la Chersonèse, très précisément entre Cigé et la Chersonèse, Élée tombe dans le détroit qui dès lors prend son nom, le détroit. Élée donne son nom au détroit. C'est l'image que vous avez sous les yeux. Elle tombe dans le détroit. Elle va se noyer d'ailleurs. Hein. Donc elle disparaîtra, Élée. Hein. Et elle va donner son nom au détroit de Hellespont. Le détroit d'Hellespont. Ah oui, donc la mythologie grecque explique ça comme ça. C'est-à-dire ce détroit, s'il porte ce nom d'Hellespont, c'est parce que la pauvre Élée est tombée dans ce détroit. Et depuis, le détroit s'appelle Hellespont. Alors, Élée est morte noyée, elle devient le détroit d'Hellespont, pour faire simple. Bon, Phrixos, lui, de son côté, reste, comme le montre l'image, sur le dos du bélier. Phrixos atteint la Colchide, où règne Éthès. Éthès est fils d'Hélios et de Perséis. Éthès l'accueille et lui donne pour femme l'une de ses deux filles. Cette fille s'appellera Calciopée. Phrixos, obéissant au commandement d'Hermès, sacrifie le bélier à Zeus, plus précisément à Zeus, protecteur des exilés, ce qu'il est d'ailleurs Phrixos, et il va offrir la toison à Éthès. Donc là, rien de plus normal, c'est une demande d'Hermès, il ne peut pas se soustraire à ça, il a sacrifié le bélier à Zeus, protecteur des exilés, c'est pour ça que je vous ai présenté Zeus tout à l'heure, qui était vraiment très lié à ce bélier. Donc il offre la toison à Éthès, le roi la cloue sur un chêne dans le bois sacré d'Arès, le dieu de la guerre. Le roi n'a pas agi par générosité, mais parce que Zeus lui en a donné l'ordre par la bouche d'Hermès. Donc voilà comment les choses se mettent en place. Bon, alors ainsi on a une toison d'or qui est suspendue, accrochée à un chêne dans le bois sacré d'Arès, soit en Colchide. Là-dessus, Pélias, demi-oncle de Jason, a usurpé le pouvoir à Iolcos. Quand Jason vient réclamer le trône qui lui revient de droit à l'usurpateur, le roi se montre apparemment bon prince, grand seigneur, puisqu'il y met une seule condition. Il lui dit à Jason, oui, bien sûr, je vais te redonner ton trône, il te revient de droit, c'est évident. Bon, mais par contre, je souhaite que tu me rapportes la toison d'or. Bon, toison qui, vous l'avez compris, est détenue par le roi Éthès de Colchide, ce sont les conditions que j'évoquais à l'instant. Alors cette exigence paraît très très simple, mais en fait non, c'est une difficulté absolument incroyable. Et pour le roi Pélias, enfin l'usurpateur plutôt, c'est une façon de se débarrasser une bonne fois du jeune homme, c'est-à-dire de garder le pouvoir à Iolcos. Alors malgré les risques, bien qu'il sache le pont euxin peuplé de barbares, Jason accepte le défi, conscient par ailleurs que cette entreprise lui vaudra la gloire s'il réussit. Mais va-t-il réussir? Bon, plus de 50 héros grecs embarquent sur le bateau fameux qui est l'Argo. Ces 50 héros sont les Argonautes. Après bien des vicissitudes, Jason et les hommes et ses hommes débarquent en Colchide. Jason rencontre le souverain du lieu. Je vous rappelle, c'est Éthès, celui qui a accroché sur un chêne la toison d'or, et lui révèle le motif de sa visite. Jason veut s'emparer de la toison d'or. Bon, à cela, le roi n'objecte rien. Il dit « d'accord », mais il impose à l'Argonaute, c'est-à-dire à Jason, de fournir la preuve qu'il est digne de recevoir un tel don. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il est un fils de roi, si vous voulez. Un héros fils de roi qui va pouvoir accomplir des épreuves tout à fait extraordinaires. On retrouve ici le principe des rites d'initiation. Bon, enfin, passons. Éthès le soumet donc à une épreuve que lui-même a surmontée. L'épreuve est la suivante. Atteler ensemble deux taureaux monstrueux aux sabots de bronze qui crachent des flammes, leur faire labourer la terre à ces taureaux, semer dans les sillons les dents d'un dragon qui deviennent des guerriers qu'il faut vaincre. Bon, alors là, cette image tout à fait incroyable. Et voilà ce dont Jason doit s'acquitter de son côté. Bon, c'est vrai que Éthès l'a fait. Éthès l'avait fait quand il était jeune. C'est comme ça qu'il est monté sur le trône de Colchide. C'est au tour de Jason de faire cela s'il veut emporter la toison d'or. Et il remporte toutes les épreuves. Il réussit cela. Et malgré sa promesse, Éthès refuse de remettre la précieuse toison à l'Argonaute. Bon, mais voilà, Éthès a une fille. Elle s'appelle Médée. Et grâce à Médée, Jason pourra voler cet oiseau, hein, volé ou pas, enfin, à vous de voir. Après tout, ça lui revient de droit dès lors qu'il a remporté l'épreuve que Éétès lui a imposée. Enfin, qu'importe. Donc, il va voler cette toison grâce à la magicienne. Médée, c'est une magicienne, c'est la fille du souverain, mais c'est aussi une magicienne, une terrible magicienne à ce propos. Elle est amoureuse de Jason. Quand Jason débarque en Colchide, dès que Médée voit Jason, elle tombe amoureuse de lui. Bon, alors dans la nuit, ils pénètrent ensemble, Jason et Médée, dans le bois gardé par le dragon, lequel, toujours sur le qui-vive, les entend aussitôt et s'approche menaçant. Mais Médée invoque de sa voix suave l'aide du sommeil, hypnos, le sommeil, tout en trempant une brindille de genévrier dans une mixture magique qu'elle a préparée, elle est magicienne, dont elle frotte les yeux du monstre qui s'endort instantanément. Et c'est comme ça que Jason, on le voit ici, décroche du chêne la toison d'or, puis se dirige vers son navire avec Médée, et tous les deux quittent les côtes de la Colchide à la faveur de la nuit. L'iconographie est intéressante, parce que remarquez que c'est Médée qui fait tout. C'est Médée qui a tout fait. Elle est magicienne, donc de sa voix suave, elle a invoqué l'aide du sommeil. Elle a trempé une brindille de genévrier dans une mixture qu'elle a préparée. C'est elle qui frotte les yeux du monstre, qui s'endort instantanément. Bah, c'est pas ce qu'on voit ici. C'est pas ce qu'on voit. C'est Jason, hein, ici, hein, qui charme le dragon. Où est Médée ? Alors, bon, c'est sûr que Salvatore Rosa s'y prend bien, parce qu'il cache en même temps le visage de Jason. Donc, on peut jouer sur une ambiguïté, éventuellement. Donc, le peintre met en valeur le charme, le filtre. Donc, c'est très, très bien, effectivement, évoqué. Mais enfin, c'est pas Jason, hein, c'est bien, dans l'histoire, dans le mythe, c'est bien, effectivement, Médée. Mais sur les vases grecs, c'est pareil. Donc, vous ne trouverez pas sur les vases antiques la représentation de la Médée qui fait l'exploit, en fait. C'est elle qui accomplit l'exploit, hein, parce qu'elle est amoureuse de Jason. Pourquoi ? Parce que Médée, elle est épouvantable. Médée, donc, elle sera par la suite, donc, infanticide. Elle tue ses enfants. Elle tue ses enfants, hein, pour se venger de Jason, car ce sont aussi les enfants de Jason. Hein, donc, elle les tue, elle est infanticide. C'est évident que le peintre qui fait ça, il le sait. Il connaît Médée. Donc, il ne va pas lui donner la place qu'elle mériterait. Et puis, il faut se souvenir, elle se venge de Jason en tuant ses propres enfants, soit, mais c'est parce que Jason a été infidèle. Il est parti ailleurs, Jason, hein. Donc ils sont mariés, bon, soit, et puis aussitôt marié, il va voir ailleurs, hein. Bon, elle se venge, c'est une vengeance terrible, mais enfin, bon. Alors oui, effectivement, dans l'iconographie grecque, vous trouvez ce genre de représentation. Et il y en a certaines qui sont vraiment tout à fait sensationnelles, tout à fait spectaculaires. Ah, par exemple ici, le vol de la toison d'or. Très beau cratère à volutes. C'est vrai que si on ne connaît pas trop donc, les vases grecs, on se dit, tiens, bah, l'arbre de la connaissance du bien et du mal autour duquel s'enroule le serpent qui n'est autre que le diable. Et on cherche Adam, on cherche Ève, on ne les trouve pas. Bah, bien sûr, oui, on est au 4e siècle avant notre ère. Donc c'est sûr, ce n'est pas une représentation chrétienne. Hein. Bon, alors ça, c'est tout à fait fascinant. Belle représentation, au centre de la composition. L'artiste représente un arbre, un chêne a priori. C'est ce que dit le mythe. Bon, là, je ne sais pas si c'est un chêne. Je ne le crois pas. Enfin, peut-être, hein, quand même. Bon. Donc là, sur le chêne est accrochée la toison d'or. Effectivement, on voit une branche, et sur la branche suspendue, on va se rapprocher maintenant, donc la toison. Pas une belle image, mais enfin, on arrive à voir quand même. Hein. Là-dessus, le dragon est figuré sous la forme du serpent qui s'enroule autour du tronc et qui semble attiré par les sortilèges de Médée. Là, effectivement, il y a quand même Médée qui, à gauche, arrive à avoir une place un petit peu plus importante. Mais enfin, donc, elle lui tend une coupe contenant cette potion soporifique. Donc, Jason, de l'autre côté, en profite pour voler la toison d'or. Alors cette image, elle est quand même fantastique, parce que si on se pose la question, mais d'où vient cette représentation chrétienne de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, autour duquel s'enroule le serpent, bah, finalement ça vient de très loin en fait. Hein. On n'a pas du tout attendu les chrétiens pour poser ce schéma iconographique. Il est très vieux, hein. Et très vieux. Et puis bon, il faudrait bien sûr revenir sur l'arbre. On se souvient, les deux béliers là, qui tout à l'heure flanquaient l'arbre de vie et qui le gardaient. Bon, il y a des allusions comme ça dans cette représentation. Hein. Donc tout ça, ça vient de très très loin. Alors voilà donc un peu cette histoire de la toison d'or, hein, qui est tout à fait fantastique. Voici un autre document, un très beau cratère du Louvre, où là, ben, on voit donc Jason qui ramène, mais chez lui, c'est-à-dire non pas en Colchide, mais bien à Iolcos. Je vous rappelle effectivement qu'à Iolcos, Pélias, usurpateur, avait pris le trône aux dépens de son frère et aux dépens par conséquent de Jason. Et ici, on voit Jason qui revient avec la toison d'or qu'il la présente donc à Pélias. Et Pélias mourra par la suite dans des conditions absolument atroces. Grâce à Médée d'ailleurs. C'est Médée qui va donc tromper les filles de Pélias, lui préparer une potion. Il croira que c'est une potion pour rajeunir, pas du tout. Donc il mourra dans des conditions atroces. Voilà, et donc c'est le héros. Le héros est consacré. Ici on le voit, donc Jason, avec une victoire, une niké qui suspend au-dessus de sa tête une couronne, la couronne de la victoire. Et derrière se tient bien sûr, on s'en doute, Médée. Voilà pour ce très très beau cratère. Alors resterait maintenant, mais vous allez voir qu'on est vraiment dans la continuité, et puis on l'a déjà évoqué, l'animal du sacrifice. On a déjà un petit peu parlé du sacrifice. Tout à l'heure on disait, ben, à Rome par exemple, les Romains sacrifiaient un bélier à Jupiter. Bon, alors comment faire le lien avec ce que l'on a donc évoqué? Ben voilà, donc une histoire qui nous est racontée par Hérodote. Hérodote, 5e siècle avant notre ère, donc il écrit les Thébains. Et on est ramené à l'Égypte. Les Thébains. Thèbes, là où on a vu effectivement l'allée de béliers. Les Thébains ne sacrifient pas les béliers, mais ils les considèrent comme sacrés. Toutefois, un jour par an, à la fête de Zeus, ils abattent un bélier, le dépouillent, revêtant la statue de Zeus comme le dieu s'il était revêtu, et ensuite approche de la statue une autre statue représentant Héraclès. Après cela, ils se lamentent. Et là, ça rebondit sur, bien sûr, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, quand Héraclès veut donc parler à son père ne veut pas, il prend un bélier, donc se cache derrière le bélier ou la tête du bélier. Et donc c'est vrai que ce que rapporte ici Hérodote, eh bien, c'est un sacrifice du bélier à Zeus. Donc il y avait effectivement, comme à Rome pour Jupiter, un sacrifice du bélier à Zeus. Et ça s'est fait quand les Grecs ont occupé l'Égypte. Alors, par ses attributs, l'animal est en effet une victime sacrificielle, comme l'agneau. Il est donc fondamentalement l'animal de substitution, comme l'agneau, en fait. Hein. Le bélier, c'est l'animal de substitution, l'animal de sacrifice. Hein. Alors, substitution, comment il faut le comprendre? Pas compliqué, donc les civilisations ont toutes, pratiquement toutes, sacrifié des humains. Mais à force, donc dans le temps, ben, les rituels se sont adoucis et on a préféré un animal de substitution. Vu le symbole du bélier, ben, très naturellement, le bélier donc qui est l'animal de la régénération, donc un principe actif, etc., viril aussi, hein, donc lié à la fécondité, à la fertilité, à la revenue des choses, ben, très naturellement, le bélier a été l'animal de substitution. Et on peut l'évoquer comme ça. Alors justement, cette représentation, ou cette double représentation, est intéressante, parce qu'on a évoqué Hermès tout à l'heure. Hein. On a même vu un Hermès de Zeus avec des cornes de bélier. L'Hermès dans le sens de pilier ithyphalique, avec une tête de Zeus et des cornes de bélier. Hermès est effectivement un dieu qui joue un rôle important auprès donc de Zeus. Il est son héros, son messager. Et il existe dans l'iconographie l'Hermès cryophore. Le cryophore, c'est le porteur de bélier. Cryophore, vous l'avez ici, le porteur de bélier. Donc, pourquoi ? Pour différentes raisons. D'abord, c'est un dieu pasteur. C'est un dieu pasteur, Hermès. Hein. C'est un berger. Et on peut aller plus loin. C'est donc un bon pasteur. C'est un bon berger. Et là, on voit ce que les chrétiens tireront par la suite de cette iconographie, encore une fois. Hein, donc, dès l'époque paléochrétienne, il existe le Christ bon pasteur, qui, plutôt que de porter un bélier sur ses épaules, porte un agneau, autre animal de sacrifice, bon, ou de substitution plutôt. Alors, qu'importe. Donc, bon, et donc, ça vient de là, ça vient de très très loin, puisque là, vous avez des représentations du 6e siècle avant notre ère, 6e, 5e avant notre ère. Donc, une peinture qui montre Hermès, alors, superbe d'ailleurs, avec ses talonnières ailées. On voit les ailes qui se profilent, son pétase, on ne le voit pas très bien, mais sur le pétase, des ailes. Il a son caducé, c'est bien le caducé que l'on voit se profiler ici, là, hein, donc sur la gauche. Donc, il vole grâce à ses talonnières ailées, son pétase. Il vole, il est le héros des dieux, le messager. Donc, il transmet les messages avec une rapidité incroyable. Et là, il porte un bélier. Il a bien effectivement un bélier sur les épaules. Hein. Il est le cryophore. Pareil pour la statuette que vous avez à droite, qui est magnifique. Et surtout très ancienne. Alors, cette image, elle peut être présentée de différentes façons. Hein. Donc, on peut dire, bon, bah, oui, il est le dieu pasteur par excellence, il est un berger, donc il protège son troupeau, il est le cryophore. Vous trouverez aussi le moscophore. Le moscophore, c'est le porteur de veau. Hein, ce sont des représentations sculptées magnifiques qu'on a conservées. Bon, enfin, là, comme on parle du bélier, on s'en tient au bélier. Enfin, Hermès, effectivement, est le porteur d'animal, en fait. Hein, bon. Parce qu'il est le berger, parce qu'il est le pasteur, parce que le mythe dit qu'il a volé le troupeau à son frère. Son frère, c'est Apollon. Hein, il y a une sorte de rivalité et de complémentarité des deux divinités. N'oubliez jamais, effectivement, que le caducé appartient à Apollon. La lyre appartient à Hermès, mais dans un échange qui est très révélateur. Donc c'est Hermès qui hérite du caducé et Apollon de la lyre. Et donc oui, on raconte cette histoire quand il est petit, mais tout petit, hein, vraiment tout petit. Hein, bon. Donc Hermès vole le troupeau de son frère Apollon. Alors oui, ça peut être une illustration. Ici, l'Hermès cryophore qui vole le troupeau de son frère. Mais cette image peut aussi se rapporter au rituel de la lustration que pratiquaient les Grecs. Hein. La lustration, c'est une procession. Ça vient de lustre, le mot lustre, un lustre, 5 ans. Bon. Donc procession, donc lustration. Et par exemple, à Tanagra, la ville de Tanagra, c'est en Béotie, donc en Grèce, où on a produit ces statuettes de Tanagra qui sont mais magnifiques, un éphèbe portait un bélier sur les épaules et marchait autour de la ville pour la prémunir contre la peste. C'est ce qu'on appelle une lustration. La procession est circulaire parce que le cercle est magique. On fait le tour, effectivement, donc, du champ, de la ville, de ce que l'on veut protéger. Et ici, à Tanagra, c'était pour la prémunir de la peste. Intéressant de rappeler que le grand dieu de la peste, celui qui envoie la peste de ses traits, et celui qui guérit de la peste, c'est Apollon, le frère. D'où Apollon archer, hein, donc les flèches d'Apollon, attention, elles sont extrêmement dangereuses, elles apportent le mal, la peste, hein, mais c'est aussi un dieu guérisseur, au même titre qu'Hermès d'ailleurs, hein, d'où le caducé, et d'où d'autres allusions que je laisse de côté. Donc dès lors, ce bélier que transporte l'éphèbe en question autour de la ville de Tanagra, dès lors ce bélier, c'est le pharmakos. Les Grecs ont ce mot, pharmakos, qui désigne le poison et le remède. Tout à la fois le poison et le remède. Hein, ambivalence du mot. Exactement comme le mot sacré. Le mot sacré, c'est ce qui est tabou, interdit, souillé, maudit, et ce qui est bien sûr sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher parce que ça appartient aux dieux. Il y a une ambivalence. Hein. des mots sacrés et du mot pharmakos, le poison et le remède à la fois, dans le sens que le bélier se charge des souillures de la cité. Donc l'éphèbe a fait le tour comme ça de la cité, il a procédé à une lustration circulaire, le bélier se charge des souillures de la cité, que va-t-il arriver au bélier? Bon, ben, ou bien il est chassé, ou bien il est sacrifié, enfin, dans tous les cas, voilà, il s'est chargé des souillures de la cité. Ce qui est intéressant, c'est que, dans le même temps, donc, on peut le rapprocher du bouc émissaire. Ce bélier est très proche du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est hébreu, ça c'est dans la Bible que vous le trouvez, le bouc émissaire hébraïque. Hein. Mais oui, oui, tout à fait, c'est cela, c'est un peu cette image-là, le pharmakos et le bouc émissaire ont des points communs, je ne dis pas, c'est pas pareil, pas tout à fait pareil, mais il y a beaucoup de points communs. Et donc, on en revient, justement, à l'animal de sacrifice, dans le domaine biblique, cette fois-ci, le récit biblique. Dans le récit biblique, le bélier est substitué à Isaac. Et soyons clairs à propos du texte biblique, c'est pas un mouton, enfin c'est un mouton si vous voulez. Bon, mais enfin c'est un bélier, quoi, c'est pas un agneau non plus, hein. C'est bien un bélier hein, qui est substitué à Isaac. Hein. Isaac devait être immolé par son père Abraham, et au dernier instant, sacrifice humain donc, hein, que préparait ici donc Abraham, et au dernier instant, ben, on le voit. Et on ne peut pas se tromper, effectivement, on voit la tête de bélier qui surgit à droite, hein, avec cette coïncidence, la tête de bélier et puis la tête d'Isaac. Alors, animal de sacrifice, l'animal de sacrifice, et partout, c'est-à-dire que vous pouvez trouver, par exemple, des autels sur lesquels on sacrifiait le bélier, hein, qui est avec une représentation donc de bélier. Donc ça, c'est l'autel d'Antonia Prima, qui est un hôtel qu'on a trouvé effectivement du côté de Lectour, qui est aujourd'hui au musée Eugène Camoret de Lectour. Alors c'est, les quatre faces sont, ont des représentations, pour ça qu'il faut préciser, là c'est la face latérale droite que l'on a sous les yeux qui montre une tête de bélier. Alors c'est très ancien d'ailleurs, hein, c'est un hôtel qui a beaucoup beaucoup de valeur, qu'on voit donc à Lectour, 176 donc, de notre ère. Donc c'est romain, et en effet, ce rite de substitution que j'évoque se retrouve, quoique différent, dans la cérémonie du taureau-bol, dans la cérémonie du cryobol, ce qu'on appelle le taureau-bol, le cryobol, c'est-à-dire que les célébrants qui célébraient le taureau-bol ou le cryobol, plutôt que de s'automutiler, trancher les testicules du bélier et les offrer à la grande mère des dieux, c'est-à-dire Cybèle. Alors, on va préciser tout ça. Donc ça, ce sont des rituels qui étaient effectivement pratiqués à Rome. À Rome, sur le Palatin, se dressait un temple, le temple de la grande mère, Cybèle. Voilà, vous avez ici effectivement le nom, Cybèle, à ajouter, si vous voulez, un accent grave sur le premier E de Cybèle. Bon, Cybèle, donc Cybèle, c'est une déesse d'Anatolie, hein, d'Asie mineure. C'est la grande mère, Cybèle. Hein, bon. Et les Romains ont adopté, très tôt d'ailleurs, hein, donc Cybèle, d'où ce temple qui se dressait sur le Palatin. Donc, et là, on pratique un culte métroaque à la grande mère. La grande mère, c'est Cybèle. Bon. Et d'après l'épigraphie du culte métroaque qu'on a pu retrouver, ce rituel donc métroaque était lié effectivement au cryobol et au taureau-bol. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il? C'est l'effusion du sang d'un bélier quand on a affaire au cryobol ou d'un taureau quand on pratique le taureau-bol sur le fidèle à consacrer. Autrement dit, un baptême, mais un baptême du sang. Et là, vous avez cette représentation tout à fait fantastique parce que très synthétique. Remarquez derrière, ici, vous retrouvez l'autel que l'on vient de voir à l'instant. Et cet autel cryobolique, on pourrait presque dire. Hein. Donc, un autel, en tout cas, qui a préparé l'animal à sacrifier. On l'amène donc au-dessus donc d'un trou fermé par des planches donc troué bien sûr. En dessous se trouve l'impétrant, donc l'initié, celui qui sera initié au rituel, au mystère de Cybèle et Attis, puisqu'il y avait des mystères de Cybèle et Attis. Donc le taureau est égorgé, le bélier est égorgé et l'impétrant qui est dessous se fait doucher littéralement par le sang de l'animal sacrifié. Je vous ai rajouté qu'à l'époque de l'empereur Claude, au 1er siècle, c'est à cette époque que fut introduite la pratique du taureau-bol, sorte de baptême par le sang des grands prêtres de Cybèle, qui vient rappeler l'émasculation d'Attis. Alors c'est très compliqué cette histoire. Le mythe de Cybèle et d'Attis, et surtout d'Attis, est très compliqué. Mais a priori, les prêtres qui étaient à Rome sur le Palatin, là pour pratiquer le rituel, le culte métroaque, au terme du rituel, s'émasculaient. Un prêtre d'Attis et de Cybèle était émasculé. Mais effectivement, on adoucit avec le temps ce rituel, et à Rome en particulier, et ce sont, ben, je vous le disais tout à l'heure, ben, les testicules, ou du taureau ou du bélier, qui sont arrachés et offerts à la déesse Cybèle. Enfin, ça montre quand même aussi ce qu'est, alors d'abord le sacrifice du bélier, la symbolique du bélier. Vous voyez, donc les testicules, hein, ça nous ramène encore et toujours à la fertilité, à la fécondité, à la virilité, au principe actif, à la régénérescence, etc., etc. Enfin voilà, donc ça donne une idée, une petite idée, taureau-bol, cryobol, donc les rites à mystère, les cultes à mystère, pratiqués souvent, hein, ces rituels-là, voilà, et c'est dans ce cas plutôt un rituel de substitution. Il y a encore le fameux rituel qui était extrêmement pratiqué par les Romains, on peut même dire les choses autrement. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'entreprise lancée par les Romains si d'abord on n'a pas sacrifié 3 victimes mâles, un porc sous, un mouton ovis, un taureau taurus, et le rituel s'appelle le suovetorile, donc c'est-à-dire effectivement le triple sacrifice du porc, du mouton et du taureau. On sacrifiait ces 3 animaux à Mars, donc les Romains le faisaient sur le forum de Rome, puisque là vous avez effectivement une base qui reproduit très bien ce rituel qu'on appelle suovetorilia, bon parfois tortoria. Donc il s'agit dans ce cas de purifier la terre. Ce qui permet de rappeler, Mars, dieu de la guerre, est un dieu du printemps. Mars, c'est un dieu du printemps. Mois de Mars, c'est le printemps. Bon. Mars, Vénus, ce sont des dieux donc du printemps. D'où effectivement le sacrifice à Mars pour purifier la terre de ces 3 animaux. Ça, c'est les Romains sous l'Antiquité qui le faisaient. Voilà, là-dessus, est-ce que ça a disparu tout ça, donc, parce que bon, on parle d'animal de sacrifice, un bélier qui est chargé d'un symbolisme, d'une densité tout à fait incroyable. Est-ce que ça disparaît avec les chrétiens? Non. Zurbaran a laissé un tableau mais magnifique, un chef-d'œuvre de la peinture de Zurbaran. C'est splendide, ça montre le niveau de Zurbaran, parce que parfois on se dit, bon, Zurbaran n'est pas au niveau d'un Murillo, au niveau d'un Velázquez. Mais si, quand on voit ce tableau, c'est magnifique. Bon. Alors, voilà, donc, et puis là, donc, c'est une image très forte, parce qu'on voit bien que c'est un bélier, les pattes attachées, par conséquent, pour le sacrifice. Alors, en tant que victime sacrificielle, mais aussi en tant que conducteur du troupeau. Le bélier a été considéré comme un symbole du Christ par les pères de l'Église. L'image est fréquente sous la plume de saint Augustin, père et docteur de l'Église, qui nous dit, ben voilà, c'est le symbole du Christ. C'est un conducteur de troupeau, bien sûr, et il a été sacrifié. Donc le bélier est naturellement un symbole du Christ. Le bélier marche en tête du troupeau de brebis. Il est en quelque sorte le guide de ce troupeau de brebis. Donc il représente, bien entendu, le pasteur. Donc d'Hermès Criophore, on passe bien sûr au bon pasteur, le bon berger, qui n'est autre que le Christ. Et d'ailleurs, si on cite un très grand savant du Moyen-Âge, qui était bien sûr chrétien, il s'agit de Rabban Mor, hein, c'est tiré du Rerum, De Rerum Naturis. Il dit, les béliers signifient les apôtres ou les chefs des églises. Donc par conséquent, bah, l'évêque, c'est le bélier. Le Christ est le chef et le guide, Lui aussi, donc il guide un troupeau de fidèles. Le bélier est à son image. C'est pourquoi le bélier figure sur les crosses des hommes d'église, sur les crosses des évêques, les crosses des hommes d'église. Je reconnais, c'est relativement rare, mais vous le trouvez. Et là, vous avez un exemple qui est quand même tout à fait fameux, hein. Donc, on voit bien se dessiner. Alors, il en manque une moitié, enfin, une part en tout cas, une partie à droite. Malheureusement, on n'a pas toute la crosse. On a la partie supérieure un peu cassée, mais qu'importe, on voit bien comment la crosse dans la partie supérieure s'enroule sur elle-même. Et au milieu, un bélier. C'est l'évêque. C'est l'évêque. C'est l'évêque, c'est l'apôtre, c'est le Christ, celui qui guide son troupeau. Donc, on voit que les chrétiens en ont fait une image, en ont donné une image qui est très forte. Souvent d'ailleurs, à l'intérieur de la volute, le bélier lutte avec le serpent, image du démon. C'est ce que l'on a ici, hein, donc, c'est-à-dire la crosse que vous pouvez considérer comme un élément végétal. Oui, mais la partie terminale de la crosse, hein, de la volute, bah, c'est comme une gueule de serpent qui s'ouvre. Hein, et le serpent, donc, c'est le démon. Le bélier, c'est le Christ ou l'évêque qui combat le démon. Alors on le voit, il y a des réminiscences païennes là-dedans. Hein. Et justement, donc, ces réminiscences païennes sont parfois insupportables aux chrétiens. C'est-à-dire que le bélier, c'est quand même une image de l'agressivité du mal. Un bélier, c'est dangereux. Hein. Il ne faut pas trop s'approcher quand même d'un bélier hein, qui guide son troupeau. Hein. Il est dangereux, il est agressif. Hein. Et c'est vrai que progressivement, les chrétiens ont exclu l'animal du troupeau des chétives ouailles, c'est-à-dire qu'à force, dans l'iconographie chrétienne, eh bien, on n'avait plus que des brebis passives et démunies. Le bélier, finalement, au cours du Moyen-Âge, n'apparaît pas beaucoup, pas tellement, dans les bestiaires médiévaux. Donc pourtant, il a effectivement tout ce symbolisme que j'ai dit, mais voilà, les chrétiens sont prudents, les chrétiens n'osent pas trop quand même, les chrétiens ont peur de cet animal, hein, de l'agressivité du mal. Hein, donc le bélier est agressif, hein, ça les a gênés, ça. Alors on peut voir les choses aussi donc de notre façon. Au Moyen-Âge, je dis bien au Moyen-Âge, la légende du bélier à la toison est interprété comme la quête du Saint Graal. Donc, c'est-à-dire, Jason devient, je ne sais pas, Perceval, si vous voulez. Hein. Donc, la toison d'or du bélier sacrifié apparaît comme une allusion au sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire source de salut que le Christ offre aux hommes. Jason est le chrétien qui obtient le salut à travers l'Eucharistie en combattant le dragon avec l'aide de Marie. Tout ça sont des explications et des interprétations qu'on a pu donner du vieux mythe de Jason et de la toison d'or, réinterprétée ici, donc récupérée, réinterprétée par les chrétiens. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté de l'animal qui a gêné les chrétiens. Mais enfin, bon, qu'importe, avec ce tableau de Zurbaran, on est quand même bien gâtés. On peut trouver d'autres références chrétiennes, même si ça se rapporte à l'Ancien Testament, au livre de Daniel, je vous l'ai mis là ici, le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous avez ce passage-là de la lutte du bélier et du bouc. J'y reviendrai sans doute parce qu'on aura une conférence sur le bouc. Hein. Voilà, donc vous avez aussi un passage d'Ézéchiel, hein, qui est aussi évocateur. Ézéchiel, c'est un prophète, comme Daniel, c'est donc inscrit dans l'Ancien Testament. « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Quoi qu'il en soit, dans la miniature que vous avez à droite, qui est un Beatus absolument superbe, du Xe siècle de notre ère, vous avez effectivement ici le combat du bélier et du bouc. Daniel, qui a cette vision, hein, Daniel c'est un prophète, il a des visions, il voit, nous explique au bout du compte ce que sont les symboles du bélier et du bouc, et il nous dit, le bélier à deux cornes que tu as vu, enfin c'est Dieu qui lui explique sa vision, enfin qu'importe, le bélier à deux cornes que tu as vu, ce sont les deux rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi de Perse. bon, de Grèce, pardon. Donc ainsi, qu'est-ce qu'il voit, Daniel ? Ben, il voit la conquête de la Perse par Alexandre le Grand, tout simplement. Et dans cette dans ce combat, donc il imagine donc les Mèdes et les Perses contre les Grecs. Donc le bélier à deux cornes contre le bouc velu. Hein. Et donc bien sûr pour Daniel c'est néfaste. Ce sont des prodiges plutôt néfastes. C'est une vision plutôt négative hein, du monde et des choses. À ce propos, Daniel n'est pas un prophète historique. Hein, pour bien faire la part des choses, Ézéchiel est un prophète historique, pas Daniel. Pas Daniel. Daniel, lui, donc c'est un texte qui a été écrit bien après les événements qu'il est censé rapporter. Hein. Donc c'est-à-dire que tous ces événements-là, la conquête de la Perse par les Grecs, donc tout ça s'était déjà passé quand donc on écrit le livre de Daniel. Une dernière image, voilà, en guise de, disons, de conclusion. Il ne faut pas l'oublier, effectivement, il y a un très très beau passage de l'Odyssée, hein, donc par Homère, qui nous raconte le moment où Ulysse et ses compagnons sortent de la grotte de Polyphème. Donc le cyclope, ici, Ulysse et ses compagnons qui peuvent s'échapper. Je vous lis juste le passage, puisqu'il me reste 2-3 minutes pour le lire, hein, qui est très beau, hein, c'est très très beau. Hein. Donc c'est tiré du chant 9 de l'Odyssée, hein, au vers 423 et suivant. « Et voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là. Ces béliers. » Donc Polyphème a un troupeau de béliers. Hein, ça c'est la bonne traduction de l'Odyssée d'Homère. Hein. « Ces béliers étaient là, des mâles bien nourris, à l'épaisse toison, sans bruit, avec l'osier qui servait de coucher à ce monstre infernal. J'avais fait des liens, j'attache les béliers ensemble, trois par trois. La bête du milieu portait l'un de mes gens, les autres la flanquaient pour mieux cacher mes hommes, dont le poids reposait ainsi sur le trio. Il me restait à moi le bélier le plus fort, je le prends par les reins, puis coulé sous son ventre, je m'allonge en sa laine et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Rien ne lasse mon cœur, aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, les boucs et les béliers courent au pâturage, mais les brebis, bêlant, font cercle autour des stalles. Le maître n'avait pu les traire et trop pesant, leur pis leur faisait mal. Secoué de douleurs cruelles, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ses bêtes qui s'arrêtait bien droite. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Le dernier à sortir, mon bélier s'avançait, alourdi de sa laine et de mes lourdes pensées. Polyphème le tâte et de sa grosse voix, « Doux bélier, qu'as-tu donc ? Te voilà le dernier à sortir de la grotte, les autres t'ont laissé. D'ordinaire, c'est toi qui, le premier de tous, t'en vas paître à grands pas les tendres fleurs des prés, et tu vas le premier au courant des rivières, et le premier encore, tu t'empresses le soir de rentrer à l'étable. Aujourd'hui, te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets ? N'oubliez pas l'œil du cyclope. Cet œil qu'un scélérat avec ses compagnons infâmes a crevé, ce personne, il noya ma raison dans le vin, mais celui-là, crois-moi, n'est pas tiré d'affaire. Si l'amitié pouvait te donner la parole, si tu pouvais me dire où il fuit ma colère, de son crâne fendu, sa cervelle partout, à travers la caverne, arroserait le sol, et mon cœur trouverait moins lourde les souffrances qu'est venu m'apporter ce perdu de personne. Il dit, et le lâchant, fait sortir le bélier. Donc ainsi Ulysse, le dernier, sort de la caverne. Le passage est très beau, c'est une traduction de Victor Bérard. Voilà, ben ça vous donne des pistes pour cet animal dans l'imaginaire des hommes, le bélier. Donc bien sûr c'est extrêmement riche, hein, très très riche. Voilà, ben je vous remercie pour avoir suivi ce sujet. Merci.